l'écoute de Radio Calade, tout de suite, le magazine. Rencontre avec la journaliste Aïda Touhiri à la médiathèque Pierre Mendès France en partenariat avec le cinéma Les 400 coups à Villefranche en juin dernier. La journaliste originaire de la Calade s'est prêtée à une discussion autour de son parcours professionnel, du lancement du magazine d'information 66 minutes sur M6 en 2006. Elle produit et réalise aujourd'hui la série de reportages Engagez-vous sur la chaîne RMC Story, entre autres. Dans un échange interactif avec le public, elle aborde la question de la diversification des choix professionnels, de la mixité des emplois et de la lutte contre les stéréotypes et obstacles que peuvent rencontrer les femmes et minorités, quelquefois dans le secteur professionnel. Une discussion en compagnie de Aïda Touhiri.
Mais d'abord, je vous emmène à la rencontre de Zazie, l'une des plus grosses vendeuses de disques françaises. Son planning est très chargé en ce moment. Elle a sorti cette semaine un nouvel album, Totem, enregistré un clip, préparé son grand retour sur scène après 6 ans d'absence. Alexandra Lévesque l'a suivie entre tournage et répétition.
Aïda Touhiri, bienvenue chez vous finalement, puisque vous êtes caladoise, c'est ça ?
Absolument, je suis caladoise, je suis passée par Radio Calade, j'ai écouté Radio Calade, donc oui, on peut dire que je suis une caladoise pur jus.
Peut-être à rappeler un petit peu votre parcours, voilà, ici en Calade.
Alors, école primaire Jean Massé, collège Faubert, lycée Claude Bernard, ensuite seulement la fac à Lyon, mais pendant mes 18 premières années, c'était 100% Villefranche-sur-Saône. Des souvenirs plutôt sympathiques de Villefranche, et c'est vrai que ma famille y habite encore aujourd'hui, donc j'y reviens régulièrement. Le marché couvert a fait partie évidemment de notre quotidien, non seulement pour y faire des courses, mais parce que mon papa, il travaillait à une période comme marchand ambulant. Donc, il vendait des fruits et légumes, donc c'était, on va dire, la face cachée du marché couvert. Et c'est vrai que je mesurais pas à l'époque à quel point ce marché couvert était magnifique, puisqu'on donnait des coups de main à mon papa à l'époque. Mais oui, on y a passé quelques lundis, oui. Et puis week-end aussi.
De la fac de médecine, c'est bien ça, vous êtes devenue journaliste. C'est en quelque sorte le foot qui a été le déclencheur de cette conviction.
Relance de Barthez à nouveau, centre appliqué de Petit pour Zinedine Zidane, de la tête au-dessus.
Qui l'eût cru absolument, c'est par le sport, comme quoi tout est possible. Par le sport que je suis entrée dans le journalisme, puisque j'ai découvert le journalisme à la faveur d'une mission bénévole pendant la Coupe du Monde de foot en 98, qui m'a fait travailler au centre de presse, donc à Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert de l'intérieur le métier de journalisme et ce qui m'a donné envie de quitter ma fac de psycho et de me lancer dans des études de journalisme.
C'est un parcours d'autodidacte et c'est tout à fait possible, on le sait peut-être moins, dans le journalisme.
Oui, autodidacte, en n'ayant pas vraiment de diplôme en journalisme, mais en ayant remporté quand même un concours de journalisme, ce qui fait que finalement, la seule valeur qui compte, c'est le travail et la passion. Et c'est vraiment deux choses qui m'animent encore aujourd'hui. J'adore ce métier, je le fais de plein de manières différentes, à la fois en presse écrite, en radio, en télé. Et aujourd'hui, le fait de produire des émissions me permet aussi de boucler la boucle quelque part, d'avoir commencé par la présentation et de terminer aujourd'hui par la fabrication. C'est quand même une chance incroyable.
Au nom du père, Pierre, du fils, Alain, du petit-fils, Pierre et de la grand-mère. Elle se faisait appeler Nel Pierlin et elle adorait vous chanter des chansons populaires sur la route des vacances. Elle aimait aussi raconter des histoires de gens qui s'aiment chez Arlequin. Et puis un jour, elle a perdu le fil. La mémoire s'est emmêlée, l'histoire ancienne s'est mise à dormir debout. J'ai découvert à 17 ans la maladie d'Alzheimer pendant mon premier job en service de long séjour à l'hôpital de Trévoux, dans l'Ain. J'ai vu des personnes âgées redevenir comme des enfants dont il fallait prendre soin à chaque instant. J'ai vu toute la souffrance, le désarroi des familles rendant visite à un père, une mère qui ne reconnaissait plus les enfants qu'ils avaient portés, bercés, choyés. Toutes les 3 minutes, une nouvelle famille est touchée par cette maladie du siècle. On n'en guérit pas, pas encore, mais on peut tous faire quelque chose. Échanger, partager le plus possible avec nos aînés, leur faire faire des mots fléchés, des sudokus, apprendre des poésies. Rien qu'avec les chansons des Souchon, on pourrait s'amuser à en composer une. Allô maman Bobo, derrière les mots, j'ai 10 ans, c'est déjà ça. Quand je serai KO, jamais content, écoutez Douma Pénien. Chanter, c'est lancer des balles, dites-vous. Chanter, c'est aussi récolter des fonds pour l'Association pour la recherche sur Alzheimer. 450 000 euros l'an dernier. Merci pour eux. Merci pour Nel.
Bravo,
très joli message, Aïda.
Alors dites-nous un petit peu les étapes par lesquelles vous êtes passée jusqu'à effectivement aujourd'hui productrice d'une émission, hein, c'est ça, hein.
J'ai remporté un concours qui m'a fait entrer à France Inter, donc au tout début de ma carrière, on est en 2000-2001. Ah oui, c'était assez incroyable parce que j'arrivais dans une rédaction parisienne que je ne connaissais absolument pas, je connaissais personne à Paris, moi j'ai des barques petites provinciales, je connais personne et c'était vraiment quelque chose. Et cette radio nationale qui est encore aujourd'hui pleine de talents extraordinaire, m'a fait vraiment aimer encore plus la radio. Et ensuite, donc, j'ai fait 3 ans de correspondance à l'étranger, donc en Algérie en l'occurrence, qui n'est pas le pays d'origine de mes parents, mais qui m'a permis aussi d'avoir cette chance-là, parlant l'arabe, de travailler aussi pour ce média-là. Ensuite, donc, j'ai été engagée à M6, où j'ai lancé donc, l'émission d'actualité 66 minutes, qui existe toujours aujourd'hui.
Et maintenant, nous allons nous intéresser à une mode pas toujours comprise dans les foyers, la mode du jean slim. Un jean qui moule tout, qui souligne bien des imperfections en même temps qu'il est sublime. Le bon vieux jean cigarette des années 60 est revenu au goût du jour grâce à la renaissance du rock. Il a déjà été adopté par des centaines de milliers de Français, filles, garçons, jeunes, vieux, minces, rondes. Tout ça peut sembler très futile et pourtant la polémique fait rage sur Internet, dans les forums de discussion. Faut-il être anorexique pour le porter ? Est-ce vraiment un jean pour les hommes ? Cédric Le Gallo pour Tech Press s'est invité dans le débat.
J'ai présenté des journaux sur M6 également. Je suis ensuite partie sur France 2, présenter un magazine culturel. Et ensuite sur Canal+, C8, iTélé à l'époque. Et aujourd'hui, je produis des émissions pour RMC Story, donc la chaîne numéro 23.
Mais la prise, c'est un projet autour des musiques actuelles en milieu rural, dont l'objet principal est l'accès à la culture pour tous.
Où je m'intéresse à tout ce qui peut, entre guillemets, rendre notre monde meilleur, c'est-à-dire proposer ce qu'on appelle de l'infosolution, c'est-à-dire que face à une problématique, on va apporter des solutions et montrer que finalement, face à des sujets de société, on peut aussi les résoudre.
1, 2, 3, 4.
Est-ce que c'est, effectivement, vous le disiez un petit peu, mais le fait d'une actualité dense, un peu violente, agressive, qui tout d'un coup vous a fait intéresser justement à cette information-solution ?
Oui, c'est vrai que présenter les informations pendant de longues années, ça laisse des traces et on n'en sort pas forcément indemne. En tout cas, moi, ça ne m'a pas laissée indifférente. Ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ce que je raconte parce que finalement, quand vous présentez des infos, vous annoncez que des mauvaises nouvelles quasiment, des catastrophes, des faits divers, des choses qui vont mal, des gens qui sont dans la misère. Et c'est vrai que j'avais aussi envie d'apporter autre chose, non pas d'occulter les problèmes, parce qu'ils existent et il faut en parler, et c'est salutaire d'en parler, parce que si on veut résoudre des problèmes, il faut bien qu'on en parle à un moment. Mais de montrer aussi qu'on peut prendre les choses autrement, c'est-à-dire que, par exemple, face à la problématique du chômage, on peut aussi montrer comment on peut retrouver un emploi. Quand vous avez la problématique de personnes qui sont à la rue, on peut aussi montrer comment les sortir de la rue. Donc c'est en fait une autre manière de voir le monde, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui.
Mais c'était peut-être un constat un peu général. On fait de l'information sur des grandes chaînes nationales, mais qu'on a un peu perdu en quelque sorte ce travail de petite fourmi, de proximité, d'être au plus proche des habitants. Est-ce qu'il n'y a pas un petit retour comme ça qui revient, non ?
Je crois que la désaffection générale envers les médias vient aussi de ça, de cette déconnexion du terrain. Et la crise des Gilets jaunes l'a aussi montré, c'est-à-dire que les citoyens, finalement, avaient aussi le sentiment qu'on ne parlait pas de leurs problèmes et qu'on évoquait pas leurs problèmes. Et c'est revenu un petit peu comme un boomerang, c'est-à-dire que beaucoup de rédactions se sont rendues compte, ah ben oui, personne n'a vu venir les Gilets jaunes, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on devrait s'intéresser davantage aux problématiques, mais concrètes, pas seulement la petite phrase de telle politique ou la polémique stérile qui va absolument pas changer le quotidien des gens, mais au contraire, de revenir à la source de ce qui intéresse les gens et ce qui concrètement les affecte dans leur quotidien.
Là, on cible plus particulièrement les chaînes d'information continue.
Bien sûr qu'on sait aujourd'hui aujourd'hui qu'il y a une défiance des médias qui est là et qui est installée. Maintenant, c'est comment retourner la situation, comment faire en sorte finalement que les médias apportent aussi quelque chose à la société. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, je crois, de toutes les chaînes, bien sûr des chaînes d'information continue. Je crois que le problème des chaînes d'information continue, il est structurel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne remplissez l'antenne qu'avec de l'information, il ne se passe pas non plus des choses tous les jours, à tout moment de la journée. Donc on la remplit parfois avec du vide. Et c'est ce vide-là, je pense, qui fait que les gens ne sont pas dupes. Je veux dire, il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. Ils savent très bien qu'on ne leur vend que des sujets qui ne les concernent pas.
Et c'est aussi dans le sens de la rapidité, effectivement. Aujourd'hui, plus encore d'informations, plus, et avant tout le monde, et il faut sortir le billet qui sera extraordinaire avant tout le monde, etc. C'est un petit peu cette machine qui peut...
Je crois que la course à l'info n'est pas une bonne chose. Il ne faut jamais être pressé d'annoncer une mauvaise nouvelle. Vérifions d'abord cette information qui n'est peut-être pas vraie. Et puis ensuite, réfléchissons à cette information, analysons cette information, arrêtons-nous sur cette information et arrêtons-nous avec des vrais experts. Pas seulement des experts du terrorisme le lundi, des experts du chômage le mardi qui sont exactement les mêmes et qui seront les mêmes demain sur des experts du changement climatique. Donc je pense aussi que le désintérêt, il vient de là aussi. C'est que finalement, on a aussi des interlocuteurs qui sont pas forcément experts, mais qui sont là pour débiter un discours. Et encore une fois, les Français ne sont pas dupes.
L'arrivée des réseaux sociaux et Monsieur Tout-le-Monde, finalement, peut aujourd'hui prendre l'image à l'instant T ou amène aussi aux journalistes d'aujourd'hui peut-être de se poser des questions, de se remettre en question également.
Oui, je crois que les réseaux sociaux ont changé la manière de faire du journalisme. Les réseaux sociaux sont devenus aussi un canal de diffusion d'informations, informations qui ne sont pas toujours vraies, d'où l'augmentation des fake news, qui se propage à une vitesse extraordinaire par les réseaux sociaux. Donc il y a effectivement un changement, un bouleversement même du monde des médias dû à l'arrivée notamment des réseaux sociaux. Mais il y a aussi une éducation à faire, c'est-à-dire que les médias doivent aussi prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'aussi les citoyens doivent être éduqués à ces médias-là. La propagation des fake news n'est pas anodine et qu'elle doit être prise au sérieux aussi au plus haut niveau, puisqu'elle l'est aussi en cause dans, par exemple, des événements qui peuvent avoir un impact sur le monde réel, par exemple l'invasion du Capitole aux États-Unis.
Aïda Touhiri, vous êtes une femme et est-ce que quand on est une femme, on est bien traitée dans les médias? Est-ce qu'on y fait sa petite place?
Je dirais pas que j'ai été maltraitée. En tout cas, j'y ai trouvé ma place et j'ai mis du temps à la trouver. Pas forcément en tant que femme, mais en tant que fille de milieu modeste et fille d'origine immigrée. En fait, tout ça, si vous voulez, était au croisement de plusieurs choses. C'est-à-dire que j'avais une identité à la fois de genre. Je suis une femme. J'ai une identité aussi de classe, donc fille d'ouvrier. Et puis une identité aussi ethnique, puisque je suis fille d'immigrés d'origine maghrébine. Tout ça, si vous voulez, a été mixé. J'étais, on va dire, représentante de plusieurs minorités. Aujourd'hui, je crois que les choses ont beaucoup changé, ou en tout cas, elles ont évolué dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on accorde davantage de place aux femmes, davantage de place au genre et davantage de place aussi aux minorités. Disons qu'aujourd'hui, le vrai combat, il est dans les postes de direction. Je crois que la lutte qui a été menée justement pour davantage de représentativité de toutes les minorités, et d'ailleurs les femmes ne sont pas une minorité, mais de représentativité de la société dans son entier, est une lutte qui a porté ses fruits, puisqu'on voit de plus en plus de femmes. Mais maintenant, la lutte, elle se fait, on va dire, au niveau hiérarchique. C'est-à-dire que plus on monte dans la pyramide, notamment dans les médias, et plus on se rend compte que finalement, c'est beaucoup des hommes, c'est beaucoup des personnes d'un certain profil, pas beaucoup de fils d'ouvriers et puis pas beaucoup de minorités ethniques. Et ça, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a des choses qui ont été faites, il faut le reconnaître, mais il y a aussi beaucoup à faire.
On trouve une salle de concert, des studios dans lesquels il y a une école de musique, la possibilité de répéter pour des groupes et tout un tas de projets de médiation culturelle qui sont des projets avec des scolaires et tout un tas de publics différents. Donc l'idée, c'est d'avoir la musique comme ça, évidemment, en fil conducteur dans toutes nos activités.
Voilà, c'est ça.
Après avoir fait toute sa scolarité à Villefranche-sur-Saône, puis des études supérieures à Lyon, Aïda Touiri, caladoise, découvre le journalisme lors de la Coupe du Monde de football 1998. Elle débute en 2000 à France Inter, puis à Radio France, M6, France 2, le groupe Canal+, sur D8, CNews, entre autres. Et aujourd'hui, sur la chaîne RMC Story, à la réalisation d'une série de reportages intitulée « Engagez-vous ». Aïda Touiri était l'invitée de la médiathèque Pierre Mendès France à Villefranche. Votre magazine en réécoute sur radio-calade.fr.